L'assassinat du courrier de Lyon, chapitre 8. Daubenton chez la veuve Lezurc, on retrouve le voyageur mystérieux, le déjeuner à la campagne, la confession d'un criminel, le citoyen Jarry, arrestation et évasion de Dubosc, une prison d'opérette. Le jour même de l'exécution de son mari, Madame Lezurc recevait une importante et émouvante visite, celle du juge de paix Daubenton. En proie à un trouble profond qu'il ne cherchait pas à dissimuler, le magistrat disait à la pauvre femme, qui entrevoyait à peine son austère silhouette, tant ses yeux étaient encore voilés de larmes, « Citoyenne, je suis un grand coupable. C'est moi qui suis en effet involontairement responsable de la mort de votre malheureux époux, puisque c'est moi, sur la foi de deux témoignages formels, dont je n'avais pas le droit de suspecter la sincérité, qui ai ordonné son arrestation. À ce moment, j'étais convaincu de sa culpabilité. Cependant, guidé par une sorte d'instinct qui me commandait la prudence, j'allais continuer mon enquête tout en m'efforçant de faire toute la lumière, lorsque je fus brusquement dessaisi de cette affaire. Je ne cessais point, malgré tout, de m'y intéresser. Tout d'abord, je fus un peu surpris des procédés dont mon collègue de Melun usa envers votre mari. Son premier soin aurait dû être, en effet, de faire vérifier la réalité de l'alibi que Lezurc invoquait pour sa défense. Il ne le fit point. À mon sens, ce fut une faute grave. Mais cette affaire entre sa conscience et lui. Les débats du procès achevèrent de semer en moi un doute qui ne pouvait que profiter à l'accusé. La partialité du président, l'attitude de Lezurc, qui se défendait toujours avec le même calme, la même assurance qu'il avait déjà manifestée dans mon cabinet, les déclarations si nettes, si catégoriques des témoins à décharge que le citoyen Goyer n'avait pas réussi à bâillonner, les révélations de Courriolles, confirmées par Madeleine Brébant, me firent me demander si je ne m'étais pas trop hâté d'arrêter Lezurc, si une ressemblance incroyable n'avait point égaré les premiers témoins, si j'avais bien approfondi tous les dessous de l'affaire et ordonné toutes les recherches nécessaires, et si je ne m'étais point laissé entraîner par un zèle trop ardent, une conviction irréfléchie. La persistance de Courriolles a proclamé jusqu'au pied de l'échafaud que Lezurc n'avait pris aucune part à l'assassinat du courrier de Lyon. Le courage et la sérénité admirables dont votre mari a fait preuve devant la mort ont achevé de me convaincre que cet infortuné était victime d'une erreur judiciaire dont j'ai été le premier artisan. Oui, le dernier cri qu'a poussé Lezurc au seuil de l'éternité avant de comparaître devant son juge suprême, le seul qui ne se trompe jamais, était celui d'un innocent. Et d'une voix étranglée par le remords et la douleur, Daubenton ajoute « Madame, je suis venu vous demander pardon. » Brisée, bouleversée par cette démarche, la veuve Lezurc reprenait « Citoyen, je ne puis faire autrement que de vous pardonner, puisque mon pauvre mari l'avait fait avant moi. » « Je vous remercie, » s'écriait le magistrat, dont les yeux s'étaient emplis de larmes. « Ne pouvant, hélas, vous rendre ainsi qu'à ses chers enfants, celui que vous pleurez, je vais m'efforcer d'obtenir sa réhabilitation. Je n'ai que ce moyen de réparer l'immense malheur que j'ai causé. Je vous jure, citoyenne, que je ne prendrai pas un instant de repos avant que la mémoire de Lezurc n'ait été lavée du crime abominable qu'il a expié pour un autre. » Daubenton devait tenir parole. Le jour même, il entamait la lutte. Il commença par visiter toutes les prisons de Paris afin de découvrir s'il n'y trouvait pas des détenus dont les signalements correspondraient à ceux que Courriolles avait donnés de ses complices. au bout de 4 mois de recherche, aussi active qu'intelligente, faite en marge d'une police qui, loin de seconder ses efforts, avait plutôt cherché à les paralyser, Daubenton était assez heureux pour mettre la main sur le sieur Durochat, dit Laborde, qui venait d'être arrêté pour un vol récent. Il le fit confronter aussitôt avec l'inspecteur des postes qui avait vu Laborde monter dans la malle de Lyon et le reconnut aussitôt. Mais comme Durochat niait éperdument avoir pris cette voiture publique, M. Daubenton fit comparaître la veuve ex-cofon en présence du détenu et lui demanda, avec cette précision qui le caractérisait, « N'est-ce point là le particulier que vous avez vu dans la cour de la poste, monté dans la malle avec le citoyen ex-cofon, le 8 Floréal, précédent jour de son départ de Paris pour Lyon, et jour même auquel ex-cofon a été assassiné entre Lieusaint et Melun ?» Après avoir longuement regardé Durochat, la femme du courrier déclarait « C'est bien cet individu qui est parti avec feu ex-cofon et pris place avec lui dans la malle, le jour où il a été assassiné. Seulement, il n'était pas habillé pareil. Il était vêtu d'une houppelande grise à bordure noire et il avait sur la tête un chapeau rond. » Aussitôt, Daubenton fit endosser à Durochat la houppelande qui avait été trouvée sur le lieu de l'assassinat et le fit se coiffer du chapeau rond. « Le reconnaissez-vous toujours ? » demanda-t-il à la citoyenne ex-cofon. Ah, « c'est lui, j'en suis sûr. La tête sur le billot, je jurerais que c'est lui. » Le magistrat manda aussitôt le fils ex-cofon qui, tout de suite, spontanément, s'écria bah, « c'est le citoyen Laborde !» Le postillon Nantot, qui était parti de Paris avec la malle de Lyon et s'était arrêté à Villeneuve-Saint-Georges, convoqué également, ne fit aucune difficulté pour reconnaître en Durochat le citoyen qui était dans la malle de Lyon le 8 Floréal dernier. Le citoyen Blavet, chargeur de malle à la poste aux lettres à Paris, déclara non moins formellement « Plus je l'examine et plus je le reconnais. À l'instant de partir, je lui observais qu'il y avait de la place dans la malle et je lui demandais s'il y mettait quelque chose. » Mais ce particulier, ici présent, me répondit, en élevant ses deux bras, qu'il n'avait que son corps. Durochat, visiblement démonté par ces affirmations si accablantes pour lui, n'en continua pas moins à nier toute participation de sa part à l'affaire du courrier de Lyon. Le lendemain, Durochat était conduit à Melun pour les formalités d'écrou et pour être interrogé sur le choix du tribunal criminel devant lequel il voulait être renvoyé. Il choisit le tribunal de Versailles, sur lequel il fut aussitôt dirigé. Daubenton, qui ne voulait pas le lâcher avant de lui avoir arraché des aveux décisifs, l'accompagnait dans ses pérégrinations, ainsi que le citoyen Masson, huissier du tribunal criminel. Il voyageait dans une chaise de poste au volet fermé et était escorté par 4 gendarmes à cheval. Un peu avant d'arriver au village de Grosbois, Durochat, se plaignant de la faim, demanda à déjeuner. On s'arrêta à une auberge de modeste apparence. Durochat, qui semblait inquiet, demanda à parler en particulier au citoyen Daubenton. Celui-ci accepta et congédia les gendarmes ainsi que le citoyen Masson, qui voulait à tout prix rester auprès du magistrat. Tandis que les gendarmes et Masson se tenaient aux aguets dans une pièce voisine, le juge et l'accusé commençaient un frugal repas. Comme Daubenton s'emparait d'un couteau pour ouvrir l'œuf à la coque qu'on venait de lui servir, Durochat fit avec un sourire crapuleux « Vous avez peur, citoyen juge ?»« Et de qui ?» s'exclamait Daubenton. « De moi, puisque vous prenez un couteau. »« Tenez, » lui répondit tranquillement le magistrat, « servez-vous-en pour couper du pain. » Ce trait de bravoure impressionna vivement le bandit. « Vous êtes un brave, » fit-il. « C'est fait de moi. Vous saurez tout, mais pas ici. » Daubenton n'insista pas. Il eut raison. Le gredin devait tenir parole, car, en arrivant à Paris, dans une des pièces dépendant du tribunal criminel où il avait été enfermé en attendant son transfert à Versailles, voici ce qu'il dit au juge. Dans l'affaire du courrier de Lyon, c'est le nommé Dubosc qui est venu nous trouver, moi, Durochat et Vidal, dans la rue de Rohan, à Paris, où ce dernier demeurait alors. Il me proposa le vol de ce courrier. J'acceptai. L'affaire en valait la peine. Ce fut Dubosc qui m'engagea à monter dans la voiture avec le courrier. J'y consentis, et Dubosc m'arrangea un passeport qu'il avait sur lui. Il substitua au nom et au signalement qui s'y trouvaient le nom de Laborde et mon signalement. Avec ce passeport, j'en obtins un autre pour Lyon. Je me présentai à la poste et montai avec le courrier. Les seuls qui furent de ce complot avec moi sont Vidal, Roussy, Dubosc et Courriol. Bernard n'a fait que prêter les chevaux. À notre retour à Paris, nous nous rendîmes chez Dubosc, rue Croix des Petits Champs, où le partage fut fait. Bernard s'y trouvait. J'ai entendu dire qu'il y avait un particulier nommé Lezurc qui avait été condamné. Je dois, à la vérité, de dire que je n'avais jamais connu ce particulier, ni lors du projet, ni lors de son exécution. Je ne le connais pas, et je ne l'ai jamais vu. Daubenton, très satisfait, réclamait aussitôt de Durochat le signalement de Dubosc. Sans se faire le moindrement prier, le gredin répliquait.
« C'est un homme âgé de 26 à 27 ans, taille de 5 pieds 4 pouces, chevelure blonde et d'une belle figure. »
Il ajouta qu'il était possesseur d'une maison entre Paris et Versailles, avec jardin, basse-cour et un important mobilier, et que l'idée d'attaquer le courrier de Lyon leur avait été inspirée par un courrier de dépêche. C'était celle de Brest qu'on devait attaquer la première. Mais le courrier des dépêches les ayant avertis que la malle ne portait rien, il s'était rejeté sur celle de Lyon. Le 8 Floréal, dit-il, fut le jour fixé pour l'exécution du complot. 4 hommes partirent de Paris vers les 8 heures du matin. C'était Vidal, Dubosc, Roussy et Courriol. Ils étaient montés sur les chevaux fournis par Bernard. Pour moi, j'allais retenir et payer ma place au bureau de poste avec des assignats que Dubosc m'avait prêtés, et je partis de Paris vers les 5 heures de l'après-midi avec le courrier de la malle de Lyon. Quand la voiture fut attaquée au-dessus de Lieusaint, il était environ 9 heures du soir. Ce fut Roussy qui porta le coup de sabre au courrier. Je le parais de toute ma force avec ma main, et je reçus à la paume de la main, en dessous du pouce, une entaille qui me fit répandre beaucoup de sang, et dont je porte encore la cicatrice. Alors, je m'élançai hors de la voiture, et je courus à 20 pas de là, où je fus retenu par Courriol, qui se plaignait qu'on ne tenait pas parole et qu'on assassinait au lieu de voler, ainsi que nous en étions convenus. J'ajoutai que c'était nous exposer à la guillotine, mais il me répondit « Tiens, Roussy, tu sais comme il est vif, mais c'est une affaire faite, et ceux qui sont morts ne reviendront pas nous dénoncer. » Bientôt, on détourna la malle dans la forêt, on coupa les cordes des paquets, on s'empara de tout ce qu'il y avait de précieux, puis nous revînmes à Paris. Roussy était monté sur le cheval du postillon tué et m'avait donné le sien. Nous descendîmes chez Dubosc, qui occupait un entresol à Paris, dans une rue en face la barrière des 4 sergents. Il était alors environ 4 heures du matin. On avait laissé sur les boulevards le cheval du postillon tué. Ce fut chez Dubosc qu'on fit le partage du butin. J'ai eu pour ma part 50 louis en numéraire métallique, 500 000 francs en mandat, que j'ai vendu quelque temps après, à 40 sous le sang. Je restai ensuite pendant 8 jours, avec Vidal dans un appartement de la rue de Rohan. Mais 8 jours après, craignant les poursuites, nous prîmes un autre appartement, rue des Fontaines, numéro 64. Enfin, Courriol ayant été arrêté, mes alarmes augmentèrent et nous nous sommes enfuis, Vidal et moi, jusqu'à Nevers. Quant à Vidal, vous le trouverez facilement, car il est en ce moment détenu dans une des prisons de Paris. Si le récit de Durocha, quant à la part qu'il avait prise à l'assassinat du courrier de Lyon et du postillon, renfermait de volontaires inexactitudes, il disait vrai au sujet de Vidal. Vidal, en effet, fut retrouvé quelques jours après et immédiatement conduit à l'instruction. Il commença par nier à toute participation au crime qui avait coûté la vie à Excoffons et à Audebert. Il affirma que la figure de Durocha ne lui était peut-être pas inconnue, mais que, personnellement, il n'était pas en relation avec lui, pas plus qu'avec Courriol, Bernard et Dubosc. Durocha maintint énergiquement ses déclarations. Mais Vidal, bien qu'identifié par de nombreux témoins, persista à nier son crime et l'instruction marqua un temps d'arrêt. Pendant ce temps, la justice s'acharnait contre la famille de Lezurc. En vertu du jugement du 18 Thermidor en 4, le domaine public s'emparait des biens du condamné qu'elle séquestrait en attendant de les confisquer. La mère, la veuve et les trois enfants de Lezurc, qui tombaient tout à coup de la plus honorable aisance dans la misère la plus profonde, ne firent entendre aucune réclamation. Et la perte d'un fils, d'un mari, d'un père bien-aimé, cette mort flétrissante et cette innocence certaine, devinrent pour elle une torture de tous les instants. La raison des deux femmes s'altéra bientôt, mais elles ne furent pas les premières frappées. Le grand, l'honnête mais timide ami de Lezurc, ne put soutenir la vue de ces malheurs qu'il avait indirectement causés. Le pardon de Lezurc acheva de troubler sa raison chancelante et sa famille dut le placer dans la maison d'aliénés de Charenton. Pendant quelque temps, il reçut les visites de la veuve et de l'enfant de son ami. Dans son égarement, il leur disait « Où est-il, cet ami si cher? Pourquoi ne l'avez-vous pas amené ?» Puis, retrouvant dans sa mémoire l'affreuse vérité, « Oh non ! » s'écriait-il. Il ne viendra pas. Il ne peut plus venir. Et c'est moi, c'est moi. Ah, malheureux! Et, à ce souvenir, sa tête s'exaltait, puis il retombait dans un accablement profond. La mère de Lezurc fut frappée à son tour. Elle resta toujours folle. La veuve devint folle elle aussi. Elle ne devait retrouver sa raison qu'au bout de 7 années. Cette immense détresse n'avait fait que surexciter l'ardeur et le zèle de Daubenton, qui, secondé bénévolement par le citoyen Emery, ami de Lezurc, s'occupait activement de faire retomber entre les mains de la justice les deux coupables qui restaient à saisir, c'est-à-dire Dubosc et Roussy. Dubosc, surtout, car grâce à tous les recoupements qu'il avait faits au cours de sa seconde enquête, il avait acquis la certitude que c'était bien Dubosc qui, par sa ressemblance avec Lezurc, avait valu à ce dernier la condamnation capitale qu'il avait encourue. La capture de ce Dubosc lui apparaissait donc comme indispensable pour vaincre la résistance de la police et des magistrats criminels de la Seine qui, malgré les preuves si décisives de l'innocence de Lezurc, persistait à voir en lui un assassin. Mais Daubenton et le citoyen Emery, devenu son ami inséparable, son collaborateur de tout instant, n'étaient point sans se dissimuler que l'arrestation de Dubosc n'était pas une facile besogne. Tandis qu'il s'efforçait d'en retrouver la trace, le citoyen Daubenton recevait un jour la visite du citoyen Jarry, juge de paix à Besançon, qui lui faisait la confidence suivante. Il y a 2 ans, un négociant de Lyon qui était à la poursuite d'un homme qui lui avait volé 2 millions vint me prier de me faire arrêter la femme de son voleur, qui s'était réfugiée à Besançon et qu'il avait suivi à la piste de Lyon. Je fus assez heureux pour faire écrouer cette femme. Et, 10 jours après, j'étais informé que le mari de la détenue, auteur du principal vol, était dans la ville. J'envoyai à sa recherche 4 agents de police. Ils me l'amenèrent au bout d'un quart d'heure. Je le reconnus à son signalement. Je le fis fouiller et je découvris sur lui 1 700 000 francs d'assignat et dans la valise qu'il avait laissée à l'auberge où il était descendu, environ 200 louis d'or. Après avoir complété ma procédure, j'envoyai mes pièces et les prévenus à Lyon. L'avant-veille de son jugement, l'accusé escaladait les murs de sa prison et parvenait à faire évader sa femme de la maison de force où elle avait été enfermée. Tous deux sont encore en liberté. Eh bien, mon cher confrère, cet homme, c'est Dubosc, le bandit dénoncé par Courriol. Pouvez-vous me donner son signalement ? Interrogeait Daubenton. Le citoyen Jarry répliquait aussitôt. Il avait les cheveux châtains et une perruque blonde. Les cheveux de face étaient lisses. Il avait par derrière une cadenette retroussée. Je trouvais dans sa valise une autre perruque, noire. Il en changeait à volonté pour opérer le déguisement qu'il souhaitait. Ce Dubosc est déjà connu par des vols de tout genre. Il possédait à fond la science du crime. C'est lui, je n'en doute pas, que Courriol a désigné. « Pourquoi, citoyen ? » s'écriait Daubenton. « N'avez-vous pas parlé plus tôt ?»«
Je n'ai pas parlé, » ripostait Jarry.
« J'ai écrit. » « À qui donc ?»«
Au commissaire Siméon, dont j'avais lu dans le Moniteur le rapport concernant le Zurk. À tous les détails que je viens de vous relater, j'ajoutais même celui-ci. Ce Dubosc, depuis son évasion, même pendant sa détention, a eu l'audace de m'écrire qu'il ne me pardonnait pas de l'avoir fait arrêter, et il exhalait dans sa lettre toute sa colère et tous ses désirs de vengeance. J'ai même joint 2 de ses lettres à celle que j'adressais au citoyen Siméon. J'ajoutais que le sort de l'Euzurc m'arrachait des larmes.
Et que vous a-t-on répondu ?
Rien.
Aussi, mon cher collègue, quand j'ai su que vous travailliez à la réhabilitation de la mémoire de l'Euzurc, je me suis empressé d'accourir vers vous et de joindre mes modestes efforts aux vôtres.
Daubenton, très ému, se leva et, serrant affectueusement les mains au citoyen Jarry, s'écria
« Vous ne pouviez pas m'apporter un plus puissant réconfort en même temps qu'un plus précieux appui. Je vous en remercie de tout cœur, au nom de cette malheureuse mère, au nom de cet infortuné dont la douleur égara la raison, au nom de ces pauvres petits-enfants dont, si cruellement, l'injustice et non la justice a fait de si pitoyables orphelins. »
Quelques jours après cette entrevue si émouvante, Daubenton apprenait que Dubosc venait d'être arrêté à Paris le 25 Floréal en 5 et qu'il était détenu dans la maison d'arrêt du bureau central. Immédiatement, il le faisait amener dans son cabinet et il procédait à un premier interrogatoire.
Dubosc lui déclarait qu'il était natif de Bâle, Suisse, qu'il exerçait la profession d'horloger, qu'il était âgé de 32 ans et qu'il demeurait rue de Bourbon à Villeneuve. Lorsque Daubenton voulut lui parler de l'affaire du courrier de Lyon, il haussa les épaules et il déclara en ricanant
« Quand ce crime a eu lieu, j'étais bien loin de là et je ne sais vraiment pas ce qui vous prend pour m'accuser de la sorte. »
Cette séance ne devait d'ailleurs pas avoir de lendemain. En effet, le bureau central, qui voyait de très mauvais œil le citoyen Daubenton s'occuper d'une affaire qui, selon lui, était définitivement classée, dessaisissait brusquement ce magistrat de son instruction et faisait transférer à Melun, en vue de comparaître, Vidal, Durochat, qui, dans l'intervalle, avait été condamné à mort et attendait, inquiet, d'être exécuté, et Dubosc, qu'il mettait à la disposition du jury criminel de Seine-et-Marne. Celui-ci interrogeait immédiatement Dubosc, qui, changeant de tactique, déclara qu'il avait connu les individus impliqués dans l'assassinat du courrier de Lyon, mais qu'il n'y avait pris aucune part. Le directeur du jury procéda ensuite à une confrontation de Dubosc avec Vidal et déclara ne point le connaître. Puis ce fut au tour de Durocha. Durant le trajet de Paris à Melun, profitant d'un ralentissement de la surveillance des gendarmes qui l'escortaient, Dubosc avait pu glisser à l'oreille de Durocha. « Si tu ne dis rien, je te ferai passer la forte somme. » Durocha, autant par intérêt que par la crainte que lui inspirait son complice, qui exerçait sur lui comme sur tous ses autres compagnons un ascendant considérable, promit de se taire. Il se tut, et, comme le juge le pressait de questions, il se décida à dire « Ce n'est pas là le Dubosc que j'ai désigné comme l'un des assassins du courrier de Lyon. » Le directeur du jury confronta ensuite Dubosc avec plusieurs témoins dont les dires avaient fait condamner le Zurk, notamment la femme Châtelain, la femme Alfroy, le citoyen Champeau, la femme Champeau, etc. Dubosc commença par les intimider. « Je suis un forçat, évadé, c'est vrai !» s'écria-t-il. « Mais je n'ai pas assassiné le courrier de Lyon. Et malheur à qui oserait affirmer que j'étais avec les assassins !» Troublé, effrayé, hésitant, la plupart des témoins déclarèrent qu'il y avait entre le Zurk et Dubosc une grande ressemblance. Mais ils trouvèrent que le Zurk avait la figure moins pleine et le nez plus aquilin. Cependant, Madeleine Brébant, qu'on avait fait revenir de Dijon, déclarait que c'était bien là le Dubosc qu'elle avait vu, rue Croix des Petits Champs, hôtel de la Paix. Le propriétaire de cet hôtel, la portière, ainsi qu'une cliente, reconnurent parfaitement Dubosc. Or, d'après les aveux de Couriol, de Durocha et de la Brébant, c'est à l'hôtel de la Paix, le 9 Floréal, que s'était fait chez Dubosc le partage des fruits du vol. Le directeur du jury de Melun, qui, contrairement au citoyen Menessier, était décidé à pousser son enquête jusqu'à fond et à faire toute la lumière, manda près de lui le citoyen Chéron, qui, actuellement gardien de la tour du Temple, était au service de David Bernard au moment du crime. Ce témoin reconnut sans hésitation Vidal et Dubosc comme étant deux des quatre individus qui étaient venus à 6 heures du matin prendre les chevaux chez Bernard. À la suite de ces témoignages, Durocha, confronté de nouveau avec Dubosc, continua à affirmer qu'il ne le connaissait pas. Cet homme ment, à coup sûr, se dit avec raison le directeur du jury. Et il donna l'ordre au guichetier de la prison de surveiller tout particulièrement et le plus discrètement possible les deux détenus. Le guichetier en chef était ce qu'on appelle une fine lame. Si rusés fussent-ils, Dubosc et Durocha allaient tomber cette fois sur plus malin qu'eux. En effet, le guichetier, fort au courant de toutes les ruses qu'emploient les prisonniers pour correspondre entre eux, surprit d'abord quelques signes d'intelligence entre Dubosc et Durocha. Puis, il vit Dubosc s'approcher du guichet de Durocha, lui tendre la main et serrer la sienne. Enfin, il s'aperçut que, placés dans deux chambres contiguës, Durocha et Dubosc avaient pu pratiquer dans le mur une ouverture par laquelle ils communiquaient. La nuit, ils parlaient à voix basse et, le jour venu, ils dissimulaient le trou qui leur servait à correspondre au moyen d'une mie de pain reproduisant la couleur de la muraille. Continuant son enquête, le guichetier-chef interrogea plusieurs détenus. L'un d'eux lui déclara qu'il avait entendu Dubosc et Durocha se tutoyer. Un autre, que Durocha lui avait dit,
Dubosc et Vidal ont assassiné le courrier. Mais j'ai des raisons pour ne pas compromettre Dubosc. » Un troisième déclara avoir vu plusieurs fois Dubosc donner à Durochat des écus de 6 francs et une pièce d'or. Enfin, on découvrit que, plusieurs fois, la fille, Claudine Barrière, avait essayé de faire passer à Dubosc des limes et des armes. La conclusion logique s'imposait. Dubosc avait obtenu le silence de Durochat en lui promettant une évasion commune et en lui donnant de l'argent. D'ailleurs, d'autres témoignages allaient achever de faire éclater la vérité. Richard, qui était détenu au bagne de Rochefort, ayant appris l'arrestation de Dubosc, déclarait au juge de paix, auquel il avait demandé de faire des révélations, avoir appris de la bouche de Courriol que c'était Dubosc et lui qui avaient assassiné le postillon, que Roussy et Vidal s'étaient jetés sur le courrier, que Durochat lardait à coups de couteau, et que Durochat avait même failli être tué par ses complices qui, dans la chaleur de l'attaque, le prenaient sous sa houppelande pour le courrier lui-même. Et c'est ainsi que Durochat avait reçu un léger coup de sabre qu'il avait attribué aux efforts faits par lui pour défendre le courrier. Le directeur du jury n'hésitait plus alors à dresser son acte d'accusation qui se terminait par ces mots. Si Courriol, Bernard et Durochat ont été condamnés à mort tous les trois, la justice n'a point à se plaindre de la sévérité envers eux. Le crime des deux premiers n'est pas douteux, ils ont l'un et l'autre participé à l'assassinat du courrier de Lyon. Si Bernard n'a pas eu à se reprocher le même crime, on ne saurait laver sa mémoire d'avoir partagé avec eux le fruit de leur forfait. Il n'en est pas de même des sieurs Guénaud et de Lezurc. Le premier n'a été poursuivi que par le fait d'une extraordinaire ressemblance avec Vidal, mais il a été mis hors de cause. Pourquoi faut-il qu'une circonstance semblable ait coûté la vie et l'honneur au malheureux Lezurc? Aujourd'hui, ce n'est plus pour lui que la société réclame un châtiment, c'est pour Dubosc. C'est contre celui-ci que s'élèvent les plus redoutables préventions. C'est lui que Courriol, en mourant, a désigné comme le vrai coupable. C'est chez lui que le partage du vol s'est effectué. C'est lui que Durochat a désigné. Et si ce misérable affecte aujourd'hui de le méconnaître, c'est évidemment le fait d'une coupable connivence. On a vu Dubosc et Durochat se parler. On les a entendus se tutoyer, on a vu Dubosc donner de l'argent à Durochat. Tout crie donc leur complicité et celle de Vidal. Durochat, d'ailleurs, n'allait pas tarder à se rétracter. Quand il apprit que son pourvoi était rejeté et qu'il n'avait plus que quelques heures à vivre, il demanda à parler au citoyen Pil, commissaire de police, qui se rendit aussitôt dans son cachot. « Je veux, lui dit-il, avant de mourir, parler sans haine et sans vengeance. Nous n'étions que 5 pour cet assassinat. Savoir, moi, Durochat, dit Laborde, Vidal, dit Lafleur, Dubosc, Courriol et Roussy, qui, lui plus heureux que nous, a su se réfugier à Milan. Bernard n'avait que prêté des chevaux. Quant à Lezurc, il était innocent. Si je n'ai pas voulu reconnaître Dubosc, c'est parce qu'il m'avait dit que, si je me taisais, il me donnerait beaucoup d'argent et me ferait évader avec lui. » Cette déclaration de Durochat enlevait le dernier doute qui pouvait exister encore sur l'identité de Dubosc et allait permettre aux magistrats d'activer leur action. Quelques jours après, le jury des accusations déclarait qu'il y avait lieu de renvoyer devant le tribunal criminel de Seine-et-Oise, premièrement, le nommé Vidal, dit Lafleur. Deuxièmement, le nommé Dubosc s'est en fait appelé tantôt André, tantôt Jean-Guillaume, tantôt Duval, etc., etc. Troisièmement,
la nommée Barrière Claudine, se disant femme du dit Dubosc, et s'étant en outre fait appeler tantôt femme Duval, tantôt femme Forest. Quatrièmement, par contumace, Roussy, dit Ferrari, en fuite. Dubosc, Vidal et la fille Barrière furent donc transférés à la prison de Versailles, qui, ainsi que nous allons le voir, était, ainsi que beaucoup de geôles de ce temps, régie par une discipline plutôt fantaisiste. « Les prisons depuis 10 ans, nous dit M. Gaston de Layen dans son si beau livre « L'affaire du courrier de Lyon », déjà par nous souvent cité, avaient tant contenu de détenus politiques, victimes des passions et des partis successivement au pouvoir, que le fait seul d'être incarcéré, même si on était un criminel de droit commun, ne constituait plus une présomption d'infamie. On en était arrivé à avoir pour les prisonniers certains égards et à leur accorder certaines libertés dont profitaient ceux qui ne s'y trouvaient écroués que sous la prévention de crimes et de délits ordinaires. C'est ainsi que les portes des chambres des détenus, contrairement au règlement, n'étaient fermées qu'à 10 heures du soir. La porte seule du corridor les retenait prisonniers. Ils avaient dès lors la faculté de se rendre mutuellement visite et même de dîner l'un chez l'autre quand ils n'invitaient pas à ce festin leur geôlier, sa femme et ses enfants. Bien que très jeune encore, Dubosc était un criminel beaucoup trop averti pour ne point s'être muni d'une somme d'argent relativement considérable, grâce à laquelle il comptait bien d'abord passer son temps de captivité le plus agréablement possible, et ensuite préparer et assurer une évasion à laquelle, dès la première minute de son arrestation, il n'avait pas cessé de songer. Voici comment il s'y était pris pour se procurer cette somme. Il avait donné l'ordre à son avocat, le citoyen Lebon, de vendre tout le riche mobilier qui se trouvait dans son appartement. Et, après avoir prélevé sur la somme ainsi produite le montant de ses honoraires, Maître Lebon avait réussi à faire passer à son client ce qui restait, c'est-à-dire une somme relativement importante. Grâce à cet argent, Dubosc et Duval, auxquels son ami avait remis généreusement 200 louis, les prisonniers purent se montrer très larges, faire à la femme et aux enfants du geôlier Humblot des cadeaux qui achevèrent de concilier leur bonne grâce. Aussi purent-ils préparer en toute tranquillité leur plan de départ. Un soir, profitant de ce qu'aucun valet ne se trouvait derrière la porte du corridor, Dubosc ouvrit ses verrous avec 2 morceaux de bois recourbés, tandis qu'il faisait baisser les ressorts de la serrure avec un compas. Ouvrant ensuite, avec une fausse clé faite d'étain, la porte de la chambre où couchaient les enfants du geôlier Humblot, qui se trouvait ce jour-là à une noce à Pontoise, les 2 complices, attachant leurs draps à ceux du lit des enfants et à leur couverture, en firent une espèce d'échelle coulante qui allait leur permettre de sortir de leur prison. Vidal se laissa glisser le premier et fut bientôt hors d'atteinte. Moins heureux, Dubosc tomba si lourdement qu'il se cassa la jambe. Repris, réintégré dans son cachot, Dubosc fut soigné si habilement par le chirurgien de la prison qu'en peu de jours, la fracture fut guérie. Le bandit, qui avait été transporté à l'infirmerie, y dissimula assez habilement les progrès de sa guérison et le rapide rétablissement de ses forces pour tromper le citoyen Humblot lui-même. Profitant un jour de l'absence de surveillance qui, dans cette étrange prison, semblait devenue une sorte d'institution nationale, il se glissa dans le quartier des femmes, trouva moyen de s'aboucher avec Claudine Barrière, et tous 2 s'échappaient le soir même, sans qu'il fût possible de retrouver leurs traces. il était hors de doute que les ressources dont Dubosc disposait ne lui avaient pas été tout à fait inutiles et lui avaient permis de se ménager dans la place même d'utile complice. Quelques jours après, Vidal était arrêté à Lyon et ramené à Versailles, où la procédure fut immédiatement reprise. Le 22 Fructidor en 6, Vidal comparaissait devant le tribunal criminel de Versailles et, sur la déclaration unanime du jury, était condamné à mort. C'était le troisième assassin véritable du courrier de Lyon qui portait sa tête sur l'échafaud.